toutes les salutations de votre petite sœur, votre grande sœur de Nice. Que Dieu nous bénisse ensemble dans ce petit tournus. Alors, comme il n'y a pas d'horloge au fond, Daniel m'a dit que j'avais jusqu'à une heure, c'est ça? Bon. Alors, tout va bien, je compte sur votre patience. Il y a un immense écart entre le caractère éphémère de notre vie terrestre et le court terme de nos projets, c'est-à-dire que même nos projets à très long terme, finalement, si on pense à l'éternité, ça devient une très brève échéance. Et le caractère éternel de Dieu, avant que tu aies créé le ciel et la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90:2. Parce qu'il est éternel, ses projets n'ont rien de commun avec les nôtres. Il est dit dans le psaume 33, verset 11, que les projets de Dieu subsistent de génération en génération. Moi, j'ai des projets pour cet été, pour mes vacances. Peut-être des débuts de projets pour la retraite, mais ça ne va pas tellement au-delà. Les projets de Dieu vont très, 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 très loin. Ils traversent les âges. Ce qui est extraordinaire, c'est que les projets de Dieu nous concernent aussi. Malgré ce décalage immense entre l'éternité de Dieu, qui est totalement en dehors du temps, qui pour nous a tellement d'importance, et nos petits projets à nous, si étriqués, ce n'est pas un reproche, c'est une constatation, si petits, si finis, eh bien, quelque part, les projets de Dieu rencontrent les nôtres, parce qu'il a pour chacun de ses enfants des projets dont il est dit que ce sont des projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. Jérémie 29, 11. Et ce matin, j'aimerais vous parler du grand projet de Dieu. Le grand projet de Dieu en 5 étapes de révélation et d'accomplissement. En 5 étapes de révélation et d'achèvement. Le seul, l'unique, le grand projet de Dieu, qui est un projet de cohabitation. La première étape, bien sûr, c'est la création de l'univers. Dieu a créé un univers à sa démesure. Plus on s'approche, c'est comme la ligne d'horizon quand on est sur l'eau, hein, plus on s'approche de ce qu'on croit être la limite et plus on découvre que l'infini se prolonge sans fin dans cet univers qui nous dépasse tellement. Un univers à sa démesure à travers laquelle Dieu nous accorde une révélation de lui-même. Vous savez qu'il est dit dans Romains 1, au verset 20, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu à travers la création du monde, quand on considère ses perfections à travers les ouvrages qu'il a faits, qu'il a accomplis. De la même façon que n'importe quel artiste exprime quelque chose en créant une œuvre, bien Dieu, en créant l'univers, nous parle de ce qu'il est. Donc il y a au départ, à travers la création, une révélation de l'artiste, de l'auteur de ces choses. Mais il y a aussi une notion de travail d'équipe. Vous savez que la Bible commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dès le verset 2, on trouve le Saint-Esprit qui se meut au-dessus des eaux. Puis nous savons bien, soit dans le début de l'épître de Jean, non, de l'évangile de Jean, soit dans l'épître aux Colossiens, au verset 16, que tout a été créé par Jésus-Christ. Rien de ce qui a été fait n'a été créé sans la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait a été créé par elle. Donc nous avons là une équipe à l'œuvre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'agit jamais seul, même en tant que Dieu. Dieu agit en tant qu'équipe, la Trinité divine qui se manifeste, qui est à l'œuvre dans la création. Une création qui s'achève de façon absolument bénie, puisque vous savez que Dieu a béni tout spécialement le septième jour. Alors c'est vrai, on ne sait pas si c'est des jours de 24 heures, de toute façon au début le soleil n'était même pas visible, bref, peu importe. Le septième jour a été spécialement béni par Dieu, sanctifié par Dieu, et il est dit qu'il se reposa. Alors, question piège, est-ce que vous pensez que Dieu était fatigué? Ben non, Parce que dans Ésaïe 40, il est dit, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Sa puissance est telle que même le travail de la création n'a pas un tout petit peu affaibli sa force. Donc Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Quelle est la particularité de ce septième jour? Eh bien, c'était le premier jour entier de cohabitation avec l'homme et la femme. Le septième jour, Dieu n'a rien créé de nouveau. Tout était créé le sixième jour. Et pourtant, il est dit, au septième jour, Dieu acheva son œuvre. Mais quoi? Mais il n'a rien rajouté. Par contre, ça a été la première journée entière. Alors, qu'elle ait duré 1000 ans ou un jour, ce n'est pas là le problème. C'était la première journée entière de cohabitation de Dieu et de l'homme. Et il est intéressant de voir que pour Dieu, dans l'idée d'achèvement, dans l'idée d'accomplissement, eh bien, il y a la notion de cohabitation avec l'homme. Le grand projet de Dieu, c'est de cohabiter avec sa créature. Mais hélas, malgré ce travail extraordinaire, malgré cette révélation magnifique et sublime des perfections de Dieu, vous savez, nous savons, que l'homme a préféré un autre choix. Hélas, l'homme a préféré l'idolâtrie. Et nous lisons dans le premier chapitre des Romains, « Car ayant connu Dieu à travers sa création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » L'homme a préféré s'inventer des idoles plutôt que de mettre sa confiance dans ce Dieu éternel et tout-puissant qui avait démontré sa puissance et son amour à travers la création. C'était la première étape. Mais Dieu poursuit son désir de cohabitation. Et dans ce désir d'habitation, Dieu va demander au peuple de lui fabriquer une maison. Dans Exode 25:8, il est dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et Dieu demande au peuple de construire ce qui s'est appelé le tabernacle. Tabernacle, c'est-à-dire habitation. Dieu a révélé à Moïse le détail des plans de la construction du tabernacle. On sait et on se rappelle bien que sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu a révélé à Moïse la loi. Et que Moïse est descendu avec les pierres écrites du doigt de Dieu et fabriquées par Dieu. Mais ce qu'on oublie plus facilement, c'est que pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, Dieu a aussi donné à Moïse le détail de toute la construction du tabernacle et de ses ustensiles. C'était une révélation de Dieu. Moïse n'a rien inventé. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Mais Dieu avait dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Donc il y avait là aussi une œuvre de révélation de la part de Dieu pour la fabrication de cette habitation. Et c'est aussi un travail d'équipe parce que vous savez que tout le peuple a été mis à contribution pour le tabernacle. Parce que pour construire en plein désert tout ce qui était à construire, eh bien, il a fallu que le peuple fasse de bon cœur des offrandes multiples et variées pour que le matériau soit rassemblé, pour que la construction ait lieu. Et vous savez aussi que Dieu a qualifié, appelé, choisi un artisan en particulier, Betsaléel, Exode 31, à qui il a donné la compétence pour façonner tout ce qui était à façonner. Donc c'était un travail d'équipe, Moïse n'était pas seul. Et il y a eu un achèvement béni, un achèvement glorieux. Il dressa le parvis, Moïse, autour du tabernacle et de l'autel, il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Un achèvement béni et sanctionnée dans le sens favorable du mot par Dieu, puisque la gloire de Dieu vient remplir le tabernacle. Dieu met toute son approbation sur le travail fini, et Dieu vient remplir de sa gloire le tabernacle pour dire « C'est bien, vous avez bien travaillé, maintenant je peux venir poser ma gloire au milieu de vous. » Cohabitation de Dieu avec son peuple. Mais hélas, et vous le savez bien, avant même que Moïse redescende avec le modèle, le peuple avait déjà fabriqué le veau d'or. Il a dû fracasser les tables. Du coup, pour la peine, les suivantes, c'est lui qui a dû les tailler et les remonter. Ce n'est pas Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui a écrit, mais ce n'est pas Dieu qui a fait les tables. Voilà, le peuple, long, mais rapide à se détourner de Dieu. Faisons-nous un Dieu, et puis retournons en Égypte, parce que ce Moïse-là, qui s'est perdu sur la montagne, va-t-il redescendre un jour ? Et chose encore plus étonnante, vous savez que pendant les 40 années où le peuple a démonté, remonté le tabernacle au fur et à mesure de ses marches dans le désert, eh bien, dans les tentes, il y avait aussi des idoles. Et Dieu fait le reproche à son peuple. Pendant 40 ans, vous avez transporté vos idoles sous vos tentes. Quelle rapidité du peuple à se corrompre dans sa connaissance de Dieu et dans son acceptation de ce que Dieu lui a pourtant révélé. Pourtant, Dieu, par la loi, avait essayé de recadrer son peuple, de recadrer les choses. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et pourtant, c'est aller très loin. C'est aller jusqu'à ce que l'arche de l'Alliance soit carrément prise par le peuple philistin. Et vous savez qu'il y a eu une naissance juste à ce moment-là. La femme d'un fils d'Élie qui donnait naissance à son bébé et qui était tellement désemparée dans un tel désarroi de savoir que même l'arche avait finalement été prise par les ennemis de Dieu, qu'elle a voulu appeler son fils Ichabod. La gloire de Dieu est bannie d'Israël. C'est aller très loin. Mais Dieu n'a pas pour autant renoncé à son projet de cohabitation. Et vous savez qu'après le tabernacle, il y a eu encore une construction conséquente, le temple de Salomon. Et ce temple était aussi l'objet d'une révélation. Et le but de Dieu, c'était de nouveau d'habiter au milieu de son peuple. Dans 1 Roi 9.3, nous lisons en réponse à la demande de Salomon, Dieu lui répond, « J'exauce ta prière, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Dieu accepte de venir habiter dans le temple. C'est aussi un travail d'équipe. David dit à son fils Salomon, « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Dieu nous a tous choisis pour que notre maison soit un sanctuaire pour lui. Et David donna à Salomon, son fils, le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. C'est aussi suite à une révélation de Dieu que David a conçu les plans du temple. Et vous savez que David a mis de côté beaucoup de matériaux pour que Salomon puisse avoir déjà beaucoup de choses prêtes. Même si David n'a pas lui-même construit le temple, il a participé en mettant de côté des matériaux. Et ça a été aussi un travail d'équipe. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que dans cette équipe, il y a deux qui ont le même prénom. Il y a Hiram, qui est le roi de Tyr, qui va mettre à disposition sa marine et ses cèdres. Et puis, il y a un Hiram qui est un artisan qualifié de nouveau par Dieu pour faire toutes sortes d'ouvrages pour travailler aux choses qui vont être dans le temple. Donc, de nouveau, Salomon n'a pas été seul. Il y a eu toute une équipe là autour qui s'est retroussé les manches pour se mettre au travail. Et de nouveau, il y a achèvement du travail. La quatrième année au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la onzième année au mois de Bul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée. un achèvement glorieux. 1 Roi 8, 10 et 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. De nouveau, Dieu vient approuver le travail terminé en mettant sa gloire dans le temple, au point qu'ils ont dû sortir. Ils n'ont pas pu faire le service. Mais hélas, de nouveau, le peuple, malgré le temple, malgré toute la symbolique du plan de salut de Dieu qui se trouvait à la fois dans le tabernacle et dans le temple, avec le lieu très saint, avec le lieu saint, avec la cuve pour faire les ablutions, avec la nécessité d'offrir un sacrifice sanglant pour obtenir le pardon, malgré toutes ces choses-là qui étaient une route tracée vers la venue du Messie, eh bien le peuple sans cesse se détourne. Et nous lisons dans Ézéchiel notamment, Ézéchiel est conduit par l'Esprit, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une divinité étrangère, à la porte du temple. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple et le visage tourné vers l'Orient et vers les dieux de l'Orient, au sein même du temple. Et vous savez, on lit dans Malachie cette réponse de Dieu à son peuple qui dit « Mais quand tu offres une bête boiteuse, aveugle, chétive, estropiée, tu crois que c'est bien ? Quand tu offres en sacrifice une bête qui a la gale, qui va mourir demain, alors que tu as un beau mâle là, en pleine forme, tu crois que c'est bien ? Offre-les à ton gouverneur, tu vas voir comment il va te recevoir. » Un mépris de l'Éternel jusque dans les offrandes. À la limite que le peuple méprise Dieu en dehors. Mais jusque dans les offrandes qui étaient apportées au temple, il y avait un mépris de Dieu. Quelle tragédie! Mais Dieu n'a pas renoncé pour autant à son projet de cohabitation, un projet qui traverse les âges. Et l'étape suivante, vous le savez, c'est un temple de chair et d'os. La parole a été faite chair et elle a tabernaclé ou habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'étape suivante, c'est la révélation extraordinaire de Dieu en Jésus-Christ. Mais là aussi, c'est un travail d'équipe finalement. Parce que de nouveau, dans toutes les étapes importantes, la Trinité est à l'œuvre. Dieu a donné son Fils par amour pour le monde. Mais vous savez qu'il a été dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras. Et puis nous savons qu'au moment du baptême, on a toujours la Trinité présente. Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », Jésus qui est dans l'eau et le Saint-Esprit sous forme de colombe qui se pose sur lui. Ou même sur la croix quand il est dit que le Fils s'est offert au Père par l'Esprit éternel comme un sacrifice saint, sans tache, agréable à Dieu. Donc c'est de nouveau un travail d'équipe. Et quelle révélation du Père à travers la vie parfaite du Fils, qui peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Philippe, comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Quelle révélation extraordinaire ! Et pourtant, de nouveau, il y a idolâtrie, mais une idolâtrie encore plus subtile. Cette fois, c'est la religion elle-même l'idole. Et vous savez que les pharisiens, les scribes ont placé la lettre au-dessus de l'esprit, au point de vouloir exclure Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il avait le culot de faire des miracles le jour du sabbat. Alors que le jour du sabbat, il fallait rien faire. Et vous savez comment Jésus s'indigne dans la synagogue en disant « Mais est-ce que si votre bête tombe dans un puits le jour du sabbat, vous allez la laisser crever ?» Parce que c'est le sabbat? Non, vous allez la sortir. Et moi, je n'ai pas le droit de faire du bien à un être humain le jour du sabbat. Quelle indignation du Fils. Et vous savez de quelle manière il a fustigé les chefs religieux dans Matthieu 23 en leur disant « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fait passer les choses annexes de votre loi au-dessus de l'essentiel, la pratique de la justice, de l'amour, de la fidélité. » Ils ont été hypocrites et jaloux. Ils ont placé le légalisme au-dessus de la grâce et de la miséricorde de Dieu, au point de dire « Crucifie ! Nous n'avons pas d'autre roi que César. Quelle aberration pour ce peuple de refuser son roi, son Messie, de vouloir le faire crucifier et de dire à un homme qui était placé là par l'ennemi, par les Romains, nous n'avons d'autre roi que César. Quelle tragédie dans l'hérésie de ce peuple. » Mais ce fut un achèvement glorieux. Achèvement pourquoi ? Parce que Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli pour que la vraie cohabitation puisse un jour avoir lieu. Et celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons comment ? Par la foi, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et nous savons qu'il est dans la perfection éternelle, glorifié, et qu'un jour tout genou, toute langue confessera qu'il est Seigneur des seigneurs, roi des rois, pour la gloire de Dieu. Un jour futur, Dieu va accomplir son grand projet de cohabitation. Lisons dans Apocalypse 21. J'entendis, à partir du verset 3, j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Puis au verset 22 et 23, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Et chose extraordinaire, à ce moment-là, malgré la présence de la gloire de Dieu, les hommes ne seront pas obligés de s'en aller. Ils ont dû quitter le tabernacle et ils ont dû quitter le temple parce que la gloire de Dieu est venue se poser là. Mais cette fois-là, ce jour-là, la gloire de Dieu va pouvoir réellement cohabiter avec les hommes. Et nous ne serons plus obligés de fuir la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous serons nous-mêmes glorifiés. Et à ce moment-là, Jésus dit, un moment où il dit, c'est fait. Alors, je ne le retrouve pas, mais c'est écrit là quelque part. C'est accompli, les premières choses ont disparu, je suis l'alpha et l'oméga. Et donc nous allons aussi partager la gloire de Dieu. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et là on pourrait se dire que cette gloire à venir qui sera révélée pour nous, c'est celle de Dieu. Et c'est vrai, mais pas que. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation glorieuse des fils de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement nous verrons la gloire de Dieu, mais que nous allons partager cette gloire. Dans Philippiens 3, 20 et 21, il est dit « Nous sommes citoyens des cieux ». Nous sommes dès aujourd'hui citoyens des cieux. Et nous attendons comme sauveur Jésus, qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire de ressuscité par le pouvoir qui est le sien de s'assujettir toutes choses. Nous allons être semblables à lui pour l'éternité, donc nous allons être nous aussi glorifiés. Ça, c'est absolument extraordinaire. Quelle espérance! Et c'est un travail d'équipe. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur !» Et l'Esprit est à l'œuvre aujourd'hui, dans son Épouse, qui est son Église, pour la préparer à ce jour extraordinaire. Et la dernière étape, qui nous concerne le plus, c'est maintenant, aujourd'hui, moi aussi, qu'ai-je donc à vivre, qu'ai-je donc à faire ? Rien. Parce que la création, ça fait déjà un petit moment, le tabernacle, c'est une vieille chose, le temple, il a été détruit, il n'est pas encore reconstruit, Jésus, il est venu, mais il est remonté au ciel, un jour futur, c'est le futur, mais là, aujourd'hui, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à vivre ? Bien, on a à vivre la même chose. Si nous sommes présents aujourd'hui dans un endroit qui s'appelle une église, c'est parce que nous avons été bénéficiaires d'une révélation de Dieu. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui ou celle à qui le Fils veut bien le révéler. Le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, les choses qui ne sont pas montées ni à notre pensée, ni que nos yeux ont vues, ni que nos oreilles ont entendues, des choses que Dieu a préparées pour qui ? Pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous en tirons une nourriture pour notre âme, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre quand nous lisons la parole. Le but de Dieu, c'est toujours le même, c'est la cohabitation. Le désir de Dieu, c'est aujourd'hui d'habiter dans son Église, pas seulement dans des murs, mais dans une Église qui est composée de ses enfants. Dans 2 Corinthiens 6, mais comme il est écrit, non. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes, nous, en tant qu'Église, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. Mais nous sommes aussi individuellement son temple. Vous êtes devenus une habitation de Dieu en esprit, Éphésiens 2, 22. Et cette réalité de l'habitation de Dieu dans notre vie personnelle nous rend responsables. Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, donc glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle chose extraordinaire que ma petite vie soit un temple du Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, éternel, infiniment grand, infiniment puissant. Mais il y a un travail qui doit se faire, un travail qui concerne la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et ma participation volontaire, parce que Dieu ne va pas me contraindre ni me forcer, et les frères et sœurs de l'Église. Ça fait beaucoup de partenaires, hein ? Ça veut dire qu'un chrétien qui ne lirait jamais sa Bible, ça serait une petite plante chétive. Un chrétien qui lirait sa Bible tous les jours, mais s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu pour éclairer cette lecture, ça serait une petite plante chétive. Un chrétien tout seul qui lirait sa Bible avec le secours du Saint-Esprit, mais qui n'aurait pas autour de lui la présence des frères et des sœurs, ça ferait une petite plante chétive. Bon, sauf s'il est contraint et forcé d'être seul parce qu'il habite au milieu du désert. Pourquoi ? Parce que les frères et sœurs font partie intégrante du plan de Dieu pour notre accomplissement. Et cette notion d'accomplissement qu'on a vue dans des choses de pierre et de bois, comme le tabernacle ou le temple, elle est tout aussi réelle dans notre vie personnel. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour quoi faire ? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quoi ? Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli, achevé et propre à toute bonne œuvre. Le but de notre lecture de la parole, c'est de nous laisser reprendre et corriger par elle. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit récemment, mais chaque fois que je l'ouvre, je prends des baffes. C'est pas grave, prends des baffes. Si la parole nous reprend et nous corrige, c'est qu'on est réceptif à son message. Si la parole ne nous reprend pas, ne nous corrige pas, c'est que peut-être qu'on la lit un peu vite ou un peu superficiellement ou qu'on s'est blindé. Mais si la parole nous reprend, merci Seigneur pour ta parole, elle est vivante et agissante, c'est son but de nous reprendre et de nous corriger. Le but de Dieu, c'est de nous rendre accomplis, parfaits. Et Dieu utilise aussi pour ça les circonstances de notre vie. Dans Romains 8, 28, il est dit « Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais quel bien ? Mon petit bonheur tranquille ? Non. Mon bien absolu. Et ce bien absolu dépasse de loin mes interprétations de ma vie. Ce bien absolu dépend des projets de Dieu, qui sont des projets d'éternité, qui sont des projets de gloire, d'un Dieu qui veut me préparer à sa gloire. Mais vous savez que on n'habite pas loin de Biote, là. Hein ? Vous savez qu'avant de souffler le verre, il faut d'abord l'amener à l'incandescence. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même celles qui nous font mal, même celles qui nous placent dans la fournaise. Parce que tant que le verre n'est pas incandescent, on peut toujours... C'est les joues du souffleur qui gonflent et qui explosent, mais le verre ne change pas. Dieu veut nous souffler, Dieu veut nous remplir de son esprit et nous donner une forme de gloire éternelle. Et pour cela, il faut d'abord nous rougir. Et les choses que nous traversons parfois et que nous ne comprenons pas, qui nous font mal, sont là pour exercer aussi notre foi. Faut-il beaucoup de confiance quand nous savons tout ? Faut-il beaucoup de confiance au conducteur quand il nous dit, ben voilà, tu vois, on va aller de cette ville à cette ville, à cette ville, à cette ville, en passant par tel péage de l'autoroute ? Faut beaucoup de confiance ? Mais non, il nous a tout expliqué, on sait exactement où on va. Mais Dieu fait exprès de ne pas tout nous dire, de ne pas tout nous faire comprendre, de ne pas tout nous révéler de ses projets pour nous, pour que nous puissions lui faire tout simplement confiance. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Est-ce que tu me fais confiance ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi ? Tant pis. Parce que ceux, j'arrive au bout, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, merci, à être semblables à l'image de son Fils. Lequel Fils, tout Fils qu'il était, a appris l'obéissance à travers quoi ? À travers les bonnes choses de sa vie ? Non, à travers les choses qu'il a souffertes. Pourtant, il était Fils. Et Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi d'ores et déjà glorifiés. Merci Seigneur pour ce plan éternel, pour ce projet de cohabitation qui me concerne aujourd'hui et qui permet à ma petite journée, qui me paraît tellement banale, tellement insipide parfois, tellement insignifiante, tellement inutile, qui permet à cette petite journée de contribuer comme une pièce d'un immense puzzle à l'accomplissement de ton projet glorieux, de rassembler un jour ton Église dans ta gloire éternelle. Et donc je peux, moi, glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu aujourd'hui par une vie toute simple peut-être, mais quand même transcendée par sa présence. Et le laisser en toute confiance me potaffiner comme le potier utilise sa masse d'argile, sans lui dire « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que quelle argile se rebelle contre les mains du potier ? Que nous soyons donc malléables et souples dans sa main. Vous savez, je fais de la radiologie, je fais des images toute la journée. Et j'ai des patientes qui arrivent et elles sont comme ça. Une statue de béton. Ben, allez travailler avec ça. Allez réussir la bonne radio dans le bon angle de la... Des fois, je leur dis, mais écoutez, c'est impossible, là, comme ça. Vous vous détendez un petit peu et vous m'aidez, sinon je renonce. Je peux pas. Mais est-ce que parfois, on n'est pas comme ça? Seigneur, je t'écoute. Travaille. Et non, ma fille, et non, mon fils, il faut que tu sois un peu souple dans ma main pour que je puisse te placer au bon endroit de la bonne façon et que je puisse faire avec toi, le chef-d'œuvre que j'ai prévu. Toutefois, nous devons aussi veiller à l'idolâtrie. Parce que Jean, dans sa dernière épître, non, peut-être pas dans sa dernière épître d'ailleurs, dans sa première épître, mais dans le dernier chapitre, dans le dernier verset, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons tout ça. Nous avons eu révélation des plans et des projets de Dieu. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et pourtant, le dernier verset de cette épître, c'est « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Le risque pour nous est le même que pour le peuple d'Israël. Et même si parfois il nous semble vraiment dans l'abus, ce peuple, hein, gardons-nous des idoles. Mais Paul dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Je suis persuadé. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est le travail de Dieu. Alors laissons le Saint-Esprit nous persuader, même si parfois nous avons l'impression que c'est long, que rien ne se passe, que rien n'avance, que rien ne change, qu'on perd du temps. Dieu sait quelles sont ces étapes. Il y a des étapes où on a l'impression de faire des grands progrès, de grandes découvertes dans la parole. Puis il y a des étapes où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Où notre vie est difficile, même sur un plan humain, même sur un plan relationnel, ou sur un plan professionnel, ou sur un plan... Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu nous façonne parfois d'un côté, parfois d'un autre côté, mais tout contribue à la réalisation de son plan et de son projet. Faisons-lui confiance, parce que finalement, c'est ça la foi, faire confiance à Dieu. Et soyons certains que aussi pour notre vie d'église, vous avez vu, chaque fois c'était un travail d'équipe, et dans l'église aussi c'est un travail d'équipe. Et Dieu a donné des dons aux uns, aux autres et aux autres pour que tous ensemble nous puissions collaborer à l'accomplissement du travail. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour les frères et sœurs qui parfois sont là pour mettre ma patience aussi, mon amour à l'épreuve, disons-le, et qui parfois aussi sont là pour m'encourager, me booster, me soutenir, me porter dans l'épreuve. Et je suis vraiment content de ce tournus de prédicateur. Et j'ai vraiment envie que ça nous permette aux uns et aux autres de nous connaître un peu mieux. Et quand on va se retrouver le 25 tous ensemble, d'être un peu plus en communion les uns avec les autres et que Dieu nous encourage ensemble et nous bénisse ensemble parce que son œuvre s'accomplit et son plan va s'accomplir de façon parfaite parce qu'il est le Dieu dont les projets subsistent de génération en génération. Que Dieu nous bénisse dans notre génération à être pleinement partie prenante de ses projets. Amen.